yo, yo, y'en a pas de pression. Appelle ton partner, appelle ta meuf. Dis de mettre son 96.9. What? Ton boy SP.
FUWCE accent grave.
JLD. Demande à la clare ensemble.
Ici Webster, le vieux de la montagne.
C'est confus.
Yo, c'est Big Lou et Bob Bouchard.
Arnette you day, aïe aïe aïe.
S-O-U-L-D-I-A.
Ici S-A-Y-E.
Yo, ici Paradox. Vous écoutez CJMD 969, la radio officielle du Southside.
CJMD 96.9.
Branché sur Lévis.
Et on traverse du côté de Lévis maintenant à CJMD. Et vous savez, c'est talk, rock et hip-hop. Une petite tune de Cynic, feature James Blunt. Je réalise et on commence l'émission tout de suite après. Restez là.
J'ai compris que les années, ça passe vite, c'est inquiétant. Je me rends compte que Kelly sort à 7 ans, le 20 septembre, que chaque jour, les hommes s'autodétruisent à la hache. C'est pour s'enfuir, les plus forts traversent les mers à la nage. J'ai vu l'écart entre la belle et la bête. Ici, la guerre à la patate, mais à la peine et la paix dans la rue. Tu sais, les délits profitent aux hommes. Et dans 10 ans, le kilo de gamme sera au prix du kilo de pomme. J'ai compris tard que les regrets me pénalisent. Et ça fait mal quand je réalise que si peu de rêves se réalisent. Que j'avance pas, que leur justice ralentit. Que la France n'est pas si belle, ma prof d'histoire a menti. Que dans la vie, faire la paix n'est pas rentable. J'ai compris que faire la paix, c'est le cauchemar du marchand d'armes. Je réalise la nuit des courses-poursuites dans la ville. Mais n'ayez crainte puisque la mort n'est que la suite de la vie. Je prendrai tout ce qu'il y a à prendre, les joies et les larmes. Dans cette vie,
I'll join everyone. When I die, these feet carry me far. Oh, my body, oh, so tired. Mouth is dry, hardly speak. Holy Spirit, rise in me. I swear, forever is just a minute to me. And I'll take everything.
Je prendrai tout ce qu'il y a à prendre, les joies et les larmes.
In this life,
dans cette vie,
I'll join.
J'ai compris ce qui allait pas, d'où venait le mal dans nos yeux. Que les voitures qui prenaient feu ne rentraient pas dans vos urnes. Que tous les jours des amis meurent au cachot. Comment certains sont prêts à tout pour obtenir un plat chaud. J'ai compris que l'être humain ne fait rien d'autre que saigner. Que dans la vie se faire du mal est plus facile que s'aimer. Que les voisins c'est pas les filles d'à côté. Que dans le pays des droits de l'homme des familles vivent à l'hôtel. Comprenez le poids des mots, des fois la vie fout le cafard. Les voleurs se font pincer mais les violeurs ont le bafard. Que dans la vie j'ai toujours senti ce gêne. À quel point j'ai grave du mal à dire je t'aime à ceux que j'aime. Je prendrai tout ce qu'il y a à prendre, les joies et les larmes.
In this life,
dans cette vie,
I'll join.
CJMD 96.9 Lévis.
Yeah. L'alternative radio.
Talk, rock and hip-hop.
Bon matin, c'est JMD. Bienvenue dans La Traverse. Mon nom est Louis Seb en ce jeudi 24 mai. 2018 et j'accueille en studio mon co-animateur Jean-François. Salut! Hey,
bon matin, comment ça va?
Ça va très bien. Tu vois, je l'ai pas fait l'erreur cette semaine. Là.
On n'était pas au mois de décembre.
Mais non, la semaine passée, ouais, mois de décembre, paf! Je me réalise que je dis ça en même temps. C'était le froid. Mais là, c'était chaud, enfin. Enfin, c'est chaud.
C'est chaud.
Hier, c'était froid. Aujourd'hui, c'était chaud. Mais là, je suis en congé. Fait que je veux passer la tondeuse. C'est rare qu'on dit ça. Là. Dans un mois, je te garantis que je dis le contraire. Mais là, ça a poussé. Hein?
La neige, tu as eu le temps de déchaumer ton terrain. Puis
ouais, c'est ça.
Toutes les cailloux,
fait que là, c'est tout beau. Les pissenlits qui sont là, ils vont passer dans la tondeuse. Puis, ah ouais. Mais moi, je herbo-recycle. C'est ça, l'herbo-recyclage. Je ne dompe pas mon gazon ou ailleurs. Je le laisse sur le terrain. Comme okay. ça recycle. Là. Automatiquement, sinon, il faudrait le mettre comme dans le bac brun. Puis... En tout cas, on n'est pas là pour parler de consom un matin. Une petite introduction légère. Donc, bienvenue à CJMD, l'émission La Traverse pour la prochaine heure. Et vous savez, ceux qui l'écoutent le savent, les jeudis, c'est à thématique immobilière. Jean-François est professionnel dans le domaine, comme courtier immobilier. Et puis, à chaque semaine, bien, il nous amène un invité intéressant pour nous parler d'un sujet en lien avec ce merveilleux monde qui te passionne. Je te laisse nous en parler un peu plus.
Exact. Aujourd'hui, on a une de mes amies, une ancienne athlète, une professionnelle que je réfère chaudement pour différents dossiers. C'est une notaire. C'est une notaire qui travaille chez Notaire Brochu Asselin La Jeunesse, ici à Lévis. Ils ont des bureaux aussi à Saint-Henri. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a un bureau à un autre endroit aussi?
On a un bureau à Charny aussi, tout près des ponts. Puis okay. il y a une succursale à Saint-Anselme aussi.
Wow!
Couvre bien la rive sud et la périphérie. Large.
Oui.
Bon, bienvenue à Jessie dans La Traverse.
Merci.
Et juste avant, pour ceux qui voulaient nous joindre en studio, il y a toujours des façons de nous écrire. Si vous avez une petite question, on lit ça à la pause, on regarde le texto 581-500-1196 ou le courriel à studio@969fm.ca. Et petite nouveauté ce matin, on est live sur Facebook, donc tata Facebook, on leur dit bye-bye. Pour ceux qui nous voient là en direct ce matin, on fait une petite portion, on essaye ça. C'est une nouveauté ce matin, là, donc jusqu'à la pause, on va être là, puis après ça, ben, faut venir nous écouter sur les internets, parce que c'est là qu'on se situe au 969fm.ca. Donc ce matin, on parle de notaire. C'est-tu plate, ça, un notaire?
Ouais, on pense tout le temps qu'un notaire va être habillé que brun, comme un peu une image de comptable. On s'habille en brun, puis c'est plate.
Déjà, matin, ça clash. La rive, puis elle n'est pas en brun. Jessie est bien habillée. Elle a l'air plus le fun que ce qu'on peut s'attendre d'un notaire. Donc, ça va être intéressant.
Puis, pour avoir l'occasion aussi de faire plusieurs transactions avec Jessie, qu'est-ce qui est le fun aussi, c'est qu'elle verbalise bien aussi l'acte notarié.
Mm-hmm.
Puis, tu sais, veut pas, c'est... un professionnel qui est plus qu'important dans une transaction immobilière parce que c'est lui qui vient finaliser puis vient enregistrer la transaction au registre foncier. Fait que, tu sais, son rôle est très, 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 très important dans une transaction immobilière. Tu sais que, comme profession, moi, je suis courtier immobilier, on a l'occasion de transiger à plusieurs reprises sur des transactions immobilières. Puis souvent, on peut avoir des particularités sur une transaction, puis le notaire va être souvent la première personne à qui qu'on va se référer. Puis Jessie, pour moi, c'est justement là plus qu'une référence. J'ai des situations particulières dans des dossiers. Justement, on avait une situation pour un condo ici à Lévis où est-ce qu'on avait une problématique. Puis ma personne ressource était Jessie, justement, pour qu'on puisse trouver des solutions. Puis c'est une fille de solution, puis ça vient nous donner vraiment un bon coup de main.
Parce qu'un notaire, on peut pas s'en passer. On n'a pas le choix dans une transaction immobilière. T'sais, on sait qu'il y en a qui vendent des maisons par eux-mêmes, qui font des inspections par eux-mêmes. T'sais, dans les dernières semaines, je disais, ah ben moi, j'ai pas inspecté. Puis hop, j'avais pas de courtier avec moi. Mais là, il y avait un notaire, c'est sûr, au bout de la ligne.
Ça, c'est
no choice. Là.
Ça, c'est obligatoire.
C'est obligatoire.
Au même titre que tu peux pas dessiner ton certificat de localisation.
Oui, c'est ça, exact. Indispensable, donc.
Puis, dans le fond, laissez-moi présenter Jessie. C'est Jessie Labrec, notaire. Dans le fond, moi, je l'ai connue quand j'étais plus jeune. On avait mon école de badminton. J'avais coaché du badminton.
Donc, ça revient encore sur le badminton.
Exact. C'était une des athlètes chez Marcel Mallette. Marcel Mallette qui était avec moi là-bas. Puis, qu'on avait eu des super belles saisons. Ça a été super le fun. Jessie, tu es notaire depuis quelques années. J'aimerais ça que tu puisses nous parler de toi, tes études, ton parcours, ton travail. Comment ça se passe dans ta réalité?
Oui, bon, mais parfait. Donc, bonjour tout le monde. Écoutez, moi, je suis notaire depuis 2011, donc ça fait 7 ans maintenant. À la base, pour devenir notaire, ça prend le bac en droit, donc tout comme les avocats. Puis c'est une spécialité qu'on fait à la fin, donc c'est le diplôme de droit notarial maintenant qui est une maîtrise. Donc, le cheminement a changé un petit peu. Donc, moi, j'ai été, fallait qu'on fasse des stages aussi, donc j'ai été assermentée en 2011. Donc, ça fait 7 ans. Moi, j'ai vraiment une pratique générale, c'est-à-dire que je fais tout. Je fais beaucoup, beaucoup d'immobilier, mais je fais aussi un petit peu de de succession, testament, mandat, je fais des mariages, des contrats de mariage. Et je me suis aussi spécialisée en médiation familiale, donc les séparations. Sauf que j'ai aussi d'autres accréditations, donc je peux homologuer des mandats codes d'inaptitude, je peux ouvrir des régimes de protection. Je suis aussi agente vérificatrice d'identité pour les gens qui veulent avoir des signatures numériques. Et j'ai aussi un certificat en planification financière. Donc, j'en couvre.
T'en couvres large, hein? J'ai regardé ça, j'étais comme, oh, on a besoin d'un notaire.
Quand même large.
On a besoin d'un notaire pour tout ça. Wow.
Bien, en fait, c'est qu'il y a certains champs d'expertise quand même qui peuvent être pratiqués aussi par des avocats, sauf qu'on essaie vraiment de mettre de l'avant notre profession. Mm-hmm. Puis, nous, on a beaucoup de proximité aussi avec les gens, là, parce que, tu sais, un avocat, c'est pas nécessairement quelqu'un qu'on va aller voir à plusieurs reprises dans notre vie. Par contre, mm-hmm. un notaire, bien, on est là dans plusieurs étapes de la vie des gens. Donc, on peut être là au mariage, à la séparation, ils achètent une maison, ils font leur testament.
Plus de proximité.
Exactement.
Et tu vois, justement, on en parlait avant de commencer l'émission, que mes trucs personnels, c'est avec Jessie que je l'ai transige aussi. Testament, on en parlait. Mm-hmm. Où est-ce qu'on va faire une mise à jour, ma blonde et moi? Tu sais, on a des enfants, notre situation change aussi.
Ben oui, il faut
penser
à ça.
Tu sais, on peut penser qu'on peut le faire par nous-mêmes, mais tu sais, de faire affaire avec un professionnel, c'est tellement différent. Mm-hmm. On a toutes les réponses où ce que nous, on ne penserait pas. Puis, tu sais, c'est pas des situations où ce qu'on peut se dire, ah, ben j'aurais dû penser à ça. Non. Il faut que ça soit prévu à l'avance. Mm-hmm. Puis, la situation, puis, tu sais, la profession du notaire vient combler ces besoins-là. Fait que c'est super important pour nous. Puis, dans le fond, Jessie, au niveau du rôle du notaire, c'est quoi le droit notarial? C'est quoi les différents actes que vous pouvez produire?
Le rôle primaire du notaire, à la base, on est des conseillers juridiques. Donc, on est présent dans toutes sortes de transactions, puis on a aussi beaucoup un rôle de conseil. Donc, on a un devoir de conseil envers nos clients. Au niveau des actes qu'on peut produire, en fait, on touche à tout. On touche, dans le fond, aux droits de la personne. Donc, comme je parlais, bon, testament, mandat, contrat de mariage. C'est sûr que les gens nous connaissent beaucoup, beaucoup pour la portion de droit immobilier. Donc, un notaire, on achète une maison, il faut aller chez le notaire, oui. Par contre, moi, je fais des projets d'accord, les gens qui se séparent, des ententes de séparation. Après le décès de quelqu'un, du règlement de succession. Donc, c'est des choses qu'on fait également. Quand on fait des refinancements hypothécaires, donc on a acheté une maison il y a quelques années puis on veut changer l'institution financière, bien, il faut repasser chez le notaire.
Oui, ça m'avait surpris quand j'avais vu ça. Après 5 ans, je dirais, faut que j'aille chez le notaire. Pourquoi?
Il y a beaucoup de gens qui le
savent pas. J'ai compris après, mais...
C'est vraiment, on l'explique surtout aux premiers acheteurs, dans le sens qu'on va toujours, quand c'est une première maison, on leur explique que si dans quelques années, ils veulent changer d'institution financière, bien, ils vont être appelés à venir chez le notaire, mais aussi, quand on vend la propriété, bien, il y a aussi une quittance à faire. Donc, mm-hmm. il y en a un contrat, ça a l'air drôle à dire, mais quand on vend, que le vendeur doit faire, doit payer les frais de notaire aussi afférents à ça.
Ouais, c'est vrai.
Donc, on touche vraiment à tous les domaines. On fait du commercial aussi, fait que des mises à jour de livres de compagnie, je fais des incorporations de compagnie, donc on... Mm. Dans tous les aspects de la vie de quelqu'un, finalement, on peut être appelé à intervenir.
Du oui, je le veux, jusqu'à la mort et de la naissance ou presque. Oui. Non, dans la naissance, il n'y a pas de. On n'autorise pas nécessairement les documents.
Mais c'est quand on a des enfants, ben, on repense à faire nos testaments. Hein,
ben oui, en effet.
Puis, est-ce qu'un notaire, ça sert juste à remplir des formulaires?
Ça, c'est
la question qui suit.
C'est l'image du notaire contre lequel, en fait, je me bats à tous les jours parce que moi, je suis aussi administratrice de l'Association des jeunes notaires du Québec. Hein? Donc, l'Association des jeunes notaires du Québec, bien, on essaie justement de redorer l'image de la profession parce que, comme Gustave disait tantôt, bien, les gens pensent que les notaires, on est plate, on s'habille en brun dans un vieux bureau. Mais en fait, les jeunes notaires, on est super dynamiques, on se spécialise dans toutes sortes de choses. On fait beaucoup plus que de remplir des formulaires. En fait, on ne remplit pas du tout de formulaires, soit dit en passant. Là, on a vraiment un rôle de, comme je disais tout à l'heure, un devoir de conseil, un dossier immobilier dont on va parler dans quelques minutes. C'est plusieurs heures de travail. C'est pas juste de signer l'acte d'hypothèque, signer l'acte de vente. Nous, dans notre bureau, il y a énormément de travail à faire.
La recherche.
C'est le gros travail qu'on a à faire actuellement envers le public. C'est justement de faire connaître l'ampleur de notre travail. Donc, tu sais, un notaire, les gens disent « Ouais, mais un notaire, ça coûte cher juste pour remplir des formulaires. » Mais attendez, là. Il y a un rôle professionnel en arrière, puis il y a énormément de travail à faire.
Puis une responsabilité aussi.
Une responsabilité professionnelle. Puis on est souvent, quand il y a une problématique dans une transaction, ben c'est souvent sur nous que ça retombe.
La première personne à qui qu'on va aller valider, ça va être le notaire, parce que c'est lui qui vient mettre sur papier les différents accords entre les deux parties.
Fait que s'il y a de quoi qui ne fait pas ou qui ou ça marche pas.
On a le dos large.
OK, oui.
Puis sinon, au niveau du droit notarial, où le notaire arrive quand en scène dans une transaction immobilière?
Bien, en fait, au niveau d'une transaction immobilière, c'est pas rare que les gens vont nous contacter avant même de signer l'offre d'achat. C'est sûr que dans une transaction où on a un courtier immobilier d'impliqué, c'est le courtier immobilier qui va gérer la transaction avec ses clients. Nous, dans le fond, à ce moment-là, à moins que les clients aient des questions particulières, le courtier va signer bon, l'offre d'achat, les contre-propositions, les modifications. Puis après ça, c'est là, dans le fond, que le courtier va envoyer le dossier chez le notaire. Donc souvent, le client a eu un premier contact pour savoir comment ça fonctionne les rendez-vous, comment ça coûte, puis est-ce qu'on a de la disponibilité. Puis après ça, le courtier nous envoie les documents. Donc, c'est sûr que la première chose qu'on fait à ce moment-là, c'est qu'on va prendre connaissance du dossier.
OK. Puis quand vous prenez connaissance du dossier, vous avez sûrement plusieurs vérifications à faire. Est-ce que vous vérifiez, quels sont les documents que vous vérifiez? Est-ce que c'est seulement le certificat de localisation? Est-ce que c'est seulement la carte d'identité de l'acheteur et du vendeur? Qu'est-ce qui se passe dans cette partie-là?
Bien, en fait, dans un dossier immobilier, donc on prend un dossier typique d'achat de propriété, la première chose qu'on fait, en fait, quand un client va nous contacter pour nous donner le mandat d'acheter la propriété, c'est qu'on va faire ce qu'on appelle un examen des titres. Un examen des titres, ça, dans le fond, c'est souvent la partie que les gens connaissent pas du tout, c'est qu'on va aller voir au registre foncier, au niveau de la propriété, on va remonter sur les 30 dernières années tous les actes de vente qu'il y a eu sur cette maison-là. Parce qu'avant d'être une maison, mais c'est aussi un terrain. Donc, c'est un immeuble. Donc, c'est là qu'on va voir, bon, le vendeur, premièrement, est-ce qu'il y a une hypothèque qu'il va devoir enlever? Est-ce que le vendeur, il est bel et bien propriétaire de la totalité de l'immeuble? Donc, tu sais, admettons que lui, il avait acheté d'une succession, puis dans la succession, il était 6. Bien, il faut être sûr que les 6 ont vendu leurs droits pour pas qu'on ait quelqu'un quelque part qui a encore un sixième de la propriété. Donc, on remonte vraiment les 30 dernières années, puis on remonte encore plus loin que ça pour ce qui est des servitudes. Donc, les servitudes, on va remonter vraiment jusqu'à la création du cadastre. Donc, dans le coin de Lévis, là, c'est 1879 qu'on remonte.
Oh,
pour
belai.
Voir s'il y a quelqu'un qui a des droits de passage. On a-tu Hydro-Québec? On a-tu un voisin? On a-tu la ville qui a un droit de passage ou un droit de mettre des tuyaux, quoi que ce soit sur le terrain, qui pourrait brimer le nouveau propriétaire dans ses droits? Donc, ça, c'est la première chose qu'on fait. Puis, si on trouve des problématiques, bien, il faut les régler, les problématiques. Donc, on essaie le plus possible de corriger les titres de propriété. Mais, tu sais, il faut aviser toutes les parties. On a le créancier aussi qui intervient là-dedans. Ensuite de ça, bien, évidemment, quand je reçois les documents de l'agent de l'immeuble, bien, du courtier immobilier, je les analyse. Donc, en fait, là, quand on regarde dans mes dossiers, sur ma première page, là, bien, j'inscris toutes mes informations, ce que j'ai relevé. Donc, y a-t-il des inclusions, exclusions? Est-ce que c'est avec ou sans garantie? C'est quoi le prix? Y a-t-il une retenue à prévoir? Donc, tu sais, j'analyse vraiment tout ça pour voir s'il y a des particularités. Le fameux certificat de localisation dont on parlait aussi il y a quelques minutes. Donc, le certificat de localisation, je l'analyse au complet. Donc, il faut que je vois si on a des problématiques relatives à l'immeuble. Donc, tu sais, est-ce que notre immeuble est conforme? Est-ce que le bâtiment il est correct quant à ses marges? Est-ce que la remise elle a le droit d'être là? Est-ce que tout est dessus? Tu sais, s'il y a un cabanon qui est ajouté, mais le cabanon, il est supposé être sur le certificat de localisation.
Oh, okay. Puis tu vois, il y a quelques semaines, avec Alexandra Labrec, on avait parlé du certificat de localisation. Mm-hmm. Quel son rôle, c'était de mettre sur papier, c'était quoi l'état des lieux. Mm-hmm. Puis un coup que l'état des lieux a été déposé sur le certificat, incluant le plan et le rapport, bien, le notaire, lui, doit en faire une analyse. Parce que, tu sais, on peut avoir, oui, une remise, mais ça se peut que notre remise ne soit pas conforme. Mm-hmm. Puis le notaire va faire ces vérifications-là.
Oui. Ça arrive même des fois que le bâtiment principal n'est pas conforme.
Oups.
Puis là, il faut régler des choses. T'sais, ça se peut qu'il ait ajouté, je donne l'exemple de, mettons, du garage. Il a ajouté un garage, il y a des fenêtres, sauf que les fenêtres sont situées à moins de 1,5 m des lignes de propriété. Fait que là, ben, on n'est pas correct. On a des vues illégales, donc il faut les régler. Donc, on a vraiment un rôle. Puis ça arrive qu'on appelle les arpenteurs aussi parce qu'il y a des choses qu'on ne trouve pas claires dans le certificat de localisation. Fait que les différents professionnels ont à communiquer ensemble dans un dossier.
C'est un gros team, c'est une grosse équipe, mais chacun fonctionne individuellement, en silo. Chacun ses clients, vous collaborez tous ensemble.
Oui,
ça,
parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que dans un dossier immobilier, en fait, c'est nos clients, même si c'est l'acheteur qui choisit le notaire, bien, mes clients, c'est pas juste les acheteurs. Moi, j'ai un rôle d'impartialité, autant envers l'acheteur, le vendeur, mais souvent, j'ai aussi un créancier hypothécaire. J'ai une caisse, j'ai une banque. Donc, si on a une problématique, c'est pas juste acheteur-vendeur. J'ai aussi le prêteur, lui, qui veut être sûr que sa garantie, elle va être bonne sur l'immeuble.
Fait que dans le fond, t'es l'arbitre.
J'essaie de ne pas être l'arbitre parce que quand il y a des problématiques, j'essaie, dans le fond, qu'ils s'entendent avant qu'ils arrivent dans mon bureau, mais j'ai vraiment une neutralité. Je dois avertir tout le monde si jamais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas.
Puis, tu sais, nous, notre rôle comme courtier immobilier, habituellement, c'est de mettre en relation les deux parties, acheteur-vendeur. Mmh. Par la suite, c'est de leader la transaction pour arriver à une acceptation d'une promesse d'achat. Par la suite, il va y avoir la conclusion des différentes conditions qu'on va y avoir. Puis, un coup que la transaction va être finalisée, ou ce que nous, on va avoir fait une partie de vérification, bien, le rôle du notaire est quand même encore plus important parce qu'il va venir... circonscrire qu'est-ce que nous, on avait mis sur papier dans notre promesse d'achat pour s'assurer que les termes, les conditions, les devoirs de chacun, de un, soient réalisés, soient conformes, puis répondre aux exigences de chacun aussi. Là. Fait que c'est un rôle vraiment important par rapport à tout ça.
Vraiment, vraiment. On va aller prendre une petite pause. C'est déjà 9h20, ça va vite. Et après la pause, un petit preview, on va parler un peu de... Bien,
on va parler un coup qu'on est à l'acte de vente. Tout le monde est là. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi les documents qu'on signe? De quoi qu'on va parler? Puis de qu'est-ce qui se passe par rapport à tout ça?
Parfait. Donc, un petit 2 minutes de pause et on revient tout de suite. Restez là. You're now
listening. La station du Mont-Play. Funky, l'alternative radio.
Pensez à Ninette. Ce sont les experts en ménage résidentiel dans la région de Lévis. En plus d'être le service voyage de surveillance d'animaux et de domicile ou les deux, aninette.ca. Parce qu'un soin pour votre foyer, c'est aussi un soin pour vous. Faites-vous faire une soumission, c'est gratuit. Quand vous aurez conclu que c'est fait pour vous, votre facture sera faite à l'heure, vous bénéficierez de leurs services garantis et de leurs assurances qui vous protègent de tout dommage. Et c'est écolo aussi. Ils soignent votre résidence et vos animaux avec des produits éco-sûrs. That's it. aninette.ca. 581-984
4-36-80. La Luna, c'est Henri de Lévis pour tous vos chiens et chats.
Pour notre entreprise familiale ouverte 7 sur 7, rien n'est plus important que le bien-être et la santé de votre animal.
Des conseils éducatifs personnalisés,
de nombreux accessoires, de la nourriture santé de qualité supérieure
et des experts passionnés.
N'hésitez pas à prendre rendez-vous pour les jeudis coupe-griffe. Profitez également du service de livraison à domicile.
La Niche à Luna.
418-700-0600.
Pour plus d'informations, www.lanichealuna.com.
C'est Henri de Lévis pour tous vos chiens chats.
Je vous le dis, là, c'est pas un secret pour personne. Au Rina Saint-Romuald, du 950 rue de la Concorde, pour tout achat de 25$ ou plus, vous recevez un certificat cadeau de 10$ seulement en mentionnant CGMD. Hey, 10$ parce que t'as dit 4 lettres. Je suis à la lettre, là. Mais c'est seulement au Rina Saint-Romuald, 950 rue de la Concorde. Profitez-en.
À la recherche d'une salle dans la région de Lévis, pensez au complexe Deux Glaces Onco. Que ce soit pour une réunion d'affaires, un événement corporatif, un party privé, un banquet ou autre, le complexe peut vous recevoir dans l'une de ces 5 salles, dont la salle des jardins pouvant accueillir jusqu'à 300 personnes. Vous trouverez plusieurs avantages au complexe, services de restauration et traiteurs de qualité, services de bar, facilité d'accès, stationnement gratuit et le tout à des prix compétitifs. Jusqu'au 1er juin, mentionnez le code promo CJMD pour obtenir 15% de rabais sur les salles. Un complexe moderne, une équipe dynamique, une cuisine distinguée, un service clé en main. Appelez sans tarder au 418-839-9982
www.complexedeglace.com. Développement économique, Lévis.com.
Saviez-vous que la ville de Lévis offre des services liés à l'entrepreneuriat et ce, sous l'appellation Développement économique Lévis?
Développement économique Lévis finance des entreprises en phase de démarrage, de croissance et de transfert et soutient leur implantation et leur relocalisation, notamment avec l'aide à la recherche de terrains et de locaux disponibles.
Pour tous les détails, informez-vous à développementéconomiquelévis.com.
Développementéconomiquelévis.com.
96.9, la radio de Lévis.
De retour dans la traverse en ce jeudi 24 mai, Louis Seb en compagnie de Jean-François Morin et Jesse Labrec. Et c'est pas plate, un notaire finalement, hein?
Non, puis ils en font des affaires.
Hein? Ils en font, puis ça a l'air le fun.
Puis là, tu sais, c'est juste, on a juste parlé du moment où ce que le client a contacté le notaire, puis le notaire a fait un peu de travail avant d'arriver à... Ben, un peu de travail, il faut pas dire ça, là, beaucoup de travail avant d'arriver à l'acte de vente. Puis là, on va parler un peu de qu'est-ce qui se passe un coup qu'on est rendu chez le notaire, où ce que le rendez-vous a été cédulé entre l'acheteur et le vendeur, puis c'est la journée où ce qu'on va faire la passation des clés, les
c'est
passations
ça,
de titres.
Les clés, ça c'est le moment. Hein?
Puis que les gens vont devenir propriétaires, puis les autres personnes ben, vont vendre une partie de leur histoire où ce qu'ils ont habité dans cette propriété-là aussi. Fait que, Jesse, j'aimerais ça que tu puisses nous parler, là, pendant l'acte de vente, c'est qu'est-ce qui se passe? On parle de quoi? Est-ce qu'il y a des points en particulier qu'on vient parler pendant l'acte de vente?
Ben, en fait, l'acte de vente va beaucoup reprendre les termes de la promesse d'achat. Donc, c'est sûr que préalablement à cette rencontre-là, moi, j'ai rencontré les acheteurs une première fois pour leur financement hypothécaire. J'ai vérifié les taxes municipales scolaires aussi pour être sûr qu'il n'y avait pas d'arrérage. Au moment de l'acte de vente, dans le fond, le contrat de vente, on va parler de la garantie, on va parler des inclusions-exclusions, on va discuter à savoir est-ce qu'il y a des ententes spéciales, est-ce qu'il y avait des travaux à faire par le vendeur avant, dans le fond, de passer chez le notaire, est-ce que ça a été fait. On parle évidemment, bon, ben comment va se dérouler la remise des sommes, puis on fait aussi des ajustements entre l'acheteur et le vendeur au niveau des taxes municipales et scolaires. C'est-à-dire que, oui, l'acte de vente, c'est une chose. Par contre, comme il y a des taxes à payer tout au long de l'année, bien, si le vendeur les a payées, exemple, jusqu'au 31 décembre, puis l'acheteur devient propriétaire le 1er juillet, bien, il faut qu'il rembourse les taxes. Mmh. Donc, ça aussi, c'est un document qu'on va regarder. On fait toujours signer aussi diverses déclarations au vendeur pour protéger l'acheteur. Donc, on va faire signer une déclaration comme quoi il n'y a pas eu de changement au certificat de localisation si celui-ci a quelques mois et plus. C'est sûr que s'il date d'un mois avant la transaction, on présume que le vendeur n'a pas fait de changement. Mm-hmm. Pour être sûr aussi qu'il n'y a pas de travaux impayés sur la propriété pour pas que l'acheteur se retrouve avec des travaux à payer pour ne pas avoir d'hypothèque légale. On mentionne aussi au vendeur qu'il faut qu'il déclare la vente de la propriété dans son rapport d'impôt pour pouvoir bénéficier de l'exonération du gain en capital.
Ça, c'est nouveau. Hein?
Ben c'est nouveau. En fait, depuis l'année passée...
J'allais dire ça, je ne le connais pas en tout.
C'est vraiment nouveau. Puis, okay. Tu sais, dans le fond... je m'avance un peu là-dessus, puis tu pourras me corriger si je me trompe. Mais, tu sais, il y a beaucoup de gens qui ont acheté des propriétés, qui ont revendu, puis tu sais, finalement, ils ont fait des gains d'entreprise en faisant la vente des propriétés. Puis dans le fond, le gouvernement, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? C'est un peu contrôler ces ventes-là. Fait que maintenant, quand on vend des propriétés unifamiliales ou ce que c'est nos propriétés de résidence personnelle, ben maintenant, on doit les déclarer. On ne va pas être imposé si jamais c'est une vente sporadique là, qui arrive une fois aux 5 ans ou quelque chose comme ça. Mais si jamais le gouvernement se rend compte que dans les 3 dernières années, tu as vendu 3 nouvelles maisons, ben là, à ce moment-là, ils vont pouvoir avoir un recours pour dire, ben écoutez, c'était du gain d'entreprise que vous avez fait. Mm-hmm. Fait que c'est à ce moment-là, on va vous imposer sur
logique.
Le produit de la vente.
Mm-hmm. Oui.
C'est un peu ça, hein?
Oui, bien, en fait, il y a deux notions à ce niveau-là. C'est, dans le fond, l'exemple que tu donnes, Jeff, là, c'est vraiment pour les gens qui font des flips immobiliers. Donc, il y a la notion de revenu d'entreprise, dans le sens que, tu sais, si ça fait 5-6 maisons qu'on achète, on les retape un peu, on les revend, bien, à un moment donné, le gouvernement va dire, écoute, là, il n'y a pas d'exonération du gain en capital, c'est du revenu d'entreprise, parce que, dans le fond, tu en fais un profit, puis ça te permet d'en vivre. Le revenu d'entreprise, c'est imposable à 100%. Mais il y a aussi la notion du gain en capital, c'est-à-dire que quand on vend une résidence principale, donc on l'a habité, on n'est pas imposé dessus. Par contre, quelqu'un qui a sa résidence principale, mais qui a aussi un chalet ou tu sais, qui a plusieurs propriétés, bien, quand on revend une résidence secondaire, à ce moment-là, il y a du gain en capital. C'est-à-dire qu'on s'impose sur le profit qu'on a fait entre le moment où on l'a acquis et on le revend. On prend 50 % du profit qu'on met dans notre déclaration d'impôt. Puis là, bien, dans le fond, le gouvernement, ce qu'il s'est rendu compte, c'est qu'il y en a qui déclaraient une résidence secondaire comme résidence principale, ce qu'on peut faire quand même si on l'a habité. Il y a des choix fiscaux à faire. Fait que là, pour plus s'en faire passer de petites vites, bien, depuis 2017, il faut vraiment déclarer toute vente. Avant, dans notre rapport d'impôt personnel, résidence principale, on n'avait pas à le déclarer, vu qu'il n'y avait pas de gain en capital. Maintenant, il faut le déclarer. Fait que nous, on fait signer un document au vendeur comme quoi il reconnaît que nous, on l'a avisé qu'il allait devoir le déclarer dans son prochain rapport d'impôt.
Qui est au courant.
Fait qu'il ne pourra pas dire qu'il n'est pas au courant.
Oh!
Puis, tu sais, un des points qui est super important, qui va être parlé aussi pendant l'acte de vente, mais qui va être regardé aussi avec les acheteurs avant l'acte de vente, c'est les conventions d'indivision. Si on achète une propriété avec notre blonde, ça va super bien, on est super content, on a un super projet. Mm-hmm. Mais qu'est-ce qui arrive dans 2 ans si jamais on vient qu'à chicaner puis qu'on doit vendre notre propriété? Bien, on doit le prévoir. Puis le notaire, c'est un peu une de ses tâches qu'il va mettre en application ou ce qu'il va parler de ces différents éléments-là entre entre les acheteurs pour dire, ben écoutez, nous, on va émettre une convention d'indivision. La mise de fonds provient de qui, à combien, qui a donné les sommes pour la mise de fonds. Fait que, tu sais, si jamais il y a un produit sur la vente de la propriété, à combien qu'on répartit le profit, parce
c'est
que...
C'est pas 50-50 nécessairement. Mmh.
Puis, tu sais, souvent, c'est à cause qu'on va en parler quand la situation va être problématique, mais le notaire vient à l'avant de ça.
Faut prévoir au cas où, comme l'avocat, on dit souvent, l'avocat, si t'as prévu ton coût, ça va coûter moins cher s'il arrive quelque chose. Si tu prévois la peut-être surprise... Mmh.
Mais en fait, la convention d'indivision, moi, c'est quelque chose que je mets d'emblée dans tous mes contrats de vente. Dans le fond, Jeff, il a fait beaucoup de transactions avec moi, il sait que je le mets. Donc, quand il y a un premier contact téléphonique, c'est une des questions que je pose à mes acheteurs. Vous allez être propriétaire dans quel pourcentage? 50-50, 60-40, 70-30. Ça, souvent, c'est lié à comment on va payer aussi la propriété. Mm-hmm. Donc, il y a cet aspect-là, mais en plus, il y a comment sont apportées les mises de fonds. Parce que si un apporte 5 000, l'autre apporte 20 000, ben, tu sais, je vais leur demander, ben, est-ce que vous souhaitez qu'on les protège, vos mises de fonds dans l'acte de vente?
Mm-hmm.
Donc, ça, c'est super important parce que les gens pensent juste au pourcentage de propriété. Mais c'est pas le cas. Tu sais, dans le fond, s'ils sont 50-50, mais qu'un met 5 000, l'autre met 20 000, ben, tu sais, c'est normal qu'ils récupèrent chacun leur mise de fonds. Puis après, ce qui restera va être partagé selon les pourcentages.
Alors,
donc,
c'est
ça, c'est d'emblée qu'on le met, là.
Quand il y en a qui disent, oh, j'ai re-eu mon 20 000.
C'est ça.
C'est probablement bien. J'ai déjà entendu ça de collègues.
Puis, ouais. Ce qui est super important aussi dans la convention d'indivision que je vais mettre, c'est le droit de préemption. Dans le fond, le droit de préemption, c'est, admettons justement qu'ils ne s'entendent pas puis qu'ils ne veulent pas être copropriétaires, ils ont l'obligation de s'offrir leur quote-part l'un à l'autre d'abord avant de dire, ben moi, je vais vendre 50% à ma mère. Donc, on les protège entre eux autres, puis on vient prévoir s'il n'y a pas d'entente, qu'est-ce que vous devez faire? Fait qu'est-ce qu'on met une pancarte en avant de la maison, puis on doit accepter la première offre raisonnable? Si on veut pas être, si on est séparés, on ne veut pas être copropriétaire avec quelqu'un pendant 5 ans, là.
Non, non, c'est ça.
Fait que ça, c'est hyper important. Puis s'il n'y a pas ça dans un contrat notarié, une convention d'indivision, c'est présomption 50-50.
Fait que, tu sais, on a mis 5 000, l'autre a mis 20 000, bien, c'est présomption 50-50. Mm-hmm. Fait que s'il y en a un qui c'est 12 500, l'autre, c'est 12 500. Fait que ça a un impact majeur. Fait que, tu sais, on vient parler du rôle du notaire dans une transaction immobilière, mais au-delà de ça, tu sais, il y a des questions qu'on ne pense pas répondre. Fait que son rôle est vraiment important dans la transaction immobilière. Mm-hmm. Puis le droit de préemption, d'autant plus important. Tu sais, on se sépare, on veut savoir c'est quoi le processus, puis des fois, on va avoir des séparations qui vont se faire en bon terme.
Ouais.
Puis il y a des séparations qui brassent, puis ceux-là, c'est important que ça soit prévu à l'avance.
Oui, j'imagine.
Sinon, ils se ramassent en médiation familiale, puis c'est moi qui prête le problème.
Aussi.
Le problème revient dans ta cour.
Exactement.
Parce qu'elle est spécialisée aussi en médiation familiale, fait que c'est, si jamais il y a des gens là, qui ont besoin de conseils, Jessie est là pour vous.
Parce qu'en médiation familiale, pour ceux qui ne savent pas vraiment c'est quoi, c'est vraiment quand on se sépare, puis là, ben, il y a des enfants là-dedans, il y a beaucoup d'éléments qu'on n'arrive pas à s'entendre.
C'est
donc,
ça.
Ça nous prend quelqu'un entre les deux qui fasse...
Bien, il y en a qui s'entendent très bien. C'est juste qu'ils veulent faire mettre par écrit les ententes pendant que ça va bien.
Ah, parce c'est pas juste quand ça va mal, donc, la médiation.
C'est pas juste quand ça va mal. J'en ai beaucoup qui viennent dans mon bureau, justement, parce qu'ils sont capables de s'entendre. Ils veulent prendre leurs ententes là, puis pas attendre, justement, à quand ça va mal aller.
Oui.
Ouais, puis moi, j'ai une question là-dessus. Est-ce qu'on peut faire une prévision de médiation familiale, un peu comme un testament, avant même que ça arrive, cette situation-là?
Qu'est-ce que tu veux dire, une prévision?
Ben, tu sais,
présenter. De s'obliger à l'avance?
Oui, c'est ça, de le prévoir à l'avance un peu avec nos conjoints. On en parle, de quelle façon qu'on en fait. Ouais.
On prévoit nos décès, on peut prévoir.
Ben,
nos...
en fait, vois-tu.
On ne veut pas nécessairement en arriver à cette situation comme ça, mais tu sais, est-ce que ça peut être quelque chose qui peut être prévu?
Ben, quand je fais des contrats de mariage puis des conventions de vie commune ou des conventions entre conjoints de fait, là, c'est tout le temps une clause que je mets qu'en cas de séparation, en cas de litige, les parties s'engagent d'abord à tenter la médiation avant d'aller en cours là, avec chacun des avocats. Donc, oui, c'est quelque chose qu'on peut prévoir, mais on peut pas prévoir d'avance, par exemple, la garde des enfants, la pension alimentaire. C'est quelque chose qui va gérer au jour de la séparation suivant l'intérêt des enfants.
Okay. Oui, c'est sûr, selon la situation
c'est
du
ça,
moment.
Exactement. Parce que... Fait que si on peut pas prévoir 10 ans d'avance que si on se sépare, que ça va être la garde partagée parce qu'on sait pas ça va être quoi les besoins des enfants à ce moment-là.
Mmh. Exact. Les revenus aussi peuvent évoluer puis changer.
Il y a tellement de variables. Ah,
exact.
C'est intéressant. Mmh. Une parenthèse dans.
Puis on est toujours à l'acte de vente, on est chez le notaire.
Il
y a souvent des frais qui sont oubliés, puis les gens disent ah, je pensais pas qu'il y avait ces frais-là. C'est quoi ces frais-là qu'on. Que les vendeurs, souvent, qui vont être
vendeurs,
appliqués.
Ouais.
Là, puis, c'est quoi ces frais-là qu'ils doivent payer? Pour quelles raisons qu'ils doivent les payer?
En fait, j'en ai parlé rapidement tout à l'heure. Quand on vend sa maison, si on avait notre propre hypothèque, En tant que vendeur, c'est notre rôle d'enlever notre hypothèque parce que quand on lit les termes de la promesse d'achat, quand on vend une propriété, on vend libre de toute charge. Donc, il ne faut pas qu'il y ait de problème de titre et libre de toute hypothèque parce que l'acheteur, il n'y veut pas notre hypothèque, il a la sienne. Donc, dans le fond, on doit faire ce qu'on appelle une quittance. Donc, une quittance, c'est un contrat notarié. Donc, le notaire rembourse l'institution financière et par la suite, l'institution financière signe la quittance comme quoi elle reconnaît qu'elle a été payée et libère donc la propriété de la garantie hypothécaire. Donc ça, c'est à la charge du vendeur. Le vendeur aussi, ce qu'il va payer finalement au notaire, c'est les relevés de taxes parce que les relevés de taxes, comme on vend libre de toute charge, on vend libre de tout arriérage de taxes. Donc nous, on doit vérifier que les taxes municipales scolaires sont à jour. Puis évidemment, bien, les municipalités, les villes puis les commissions scolaires, ils en profitent pour charger des frais qui sont malheureusement assez élevés. Donc ça, c'est au vendeur de les payer. Et aussi, les entrées en fiducie. Les entrées en fiducie, c'est que moi, dans le fond, quelqu'un qui achète sa maison 200 000, le 200 000, il passe par mon compte de notaire. Donc, dans mon compte de notaire, quand on s'assit à l'acte de vente, je lis le 200 000. Mais après ça, il faut que je paye les divers intervenants. Donc, une fois que l'acte de vente est publié puis que j'ai la preuve qu'il n'y a pas eu d'hypothèque à la dernière minute, pas de servitude, qu'il n'y a pas de problématique, c'est là que je libère l'argent. Je paye le courtier immobilier, je paye les retards de taxes s'il y en a, je paye l'institution financière. Donc, il y a quand même de la gestion à faire. Donc ça, dans le fond, c'est au vendeur d'assumer ces frais-là parce que techniquement, je paye tout ça pour lui.
Puis, c'est un rôle vraiment important. Là. Imagine-toi, on fait une transaction ensemble, Louis-Seb. J'achète ta propriété 200 000, puis je te fais des chèques. Bon, ben, je te fais un chèque de 200 000 pour ta maison. Après ça, je fais un chèque de 500$ à mon institution financière pour la quittance. Je fais un chèque pour l'arpenteur de 1200$. Puis là, ben, finalement, j'habite ta maison. Une semaine après, les chèques rebondissent tout. Qu'est-ce qu'on fait avec ça?
Oh.
Fait que, tu sais, l'argent, là, c'est vraiment important. Puis le fait aussi que les fonds soient dans le compte en fidéocommis, habituellement 72 heures avant l'acte de vente, va faire en sorte que ça vient protéger toutes les parties. Là, parce qu'on veut pas avoir un vendeur ou un acheteur qui fait un chèque personnel pour dire « Bon, mais pas de problème, je vais te l'acheter ta maison. Combien qu'on dit? 350? On signe un chèque. » On peut pas se permettre de faire ça, là, puis c'est vraiment important. Puis quand il y a des transactions au comptant, l'argent va être déposé aussi dans le compte en fidéocommis, puis le notaire doit faire des vérifications aussi de où ce qu'elle provient, l'argent, etc. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de responsabilités sur le notaire pour s'assurer que la transaction va être complète puis va répondre aux besoins de tout le monde. Fait que c'est super important, ces éléments-là.
Puis au niveau de la gestion de l'argent, là, je sais que là, il y a plein de gens qui ont lu des articles dans les journaux comme quoi il y avait des notaires qui avaient pris de l'argent dans les comptes en fiducie. Il y a eu des articles dans le Journal du Québec dans les derniers mois, tout ça. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'argent que les clients déposent dans notre compte, nous, on est vraiment surveillés. Donc, il y a vraiment des règles à suivre. Il y a un syndic, il y a des inspecteurs qui vérifient nos comptes en fiducie. Donc, c'est vraiment sécuritaire. Tu sais, on prend pas cet argent-là pour aller magasiner, là. C'est vraiment destiné à la protection de nos acheteurs-vendeurs. Donc, oui, il y a des histoires d'horreur, mais
il y en aura dans n'importe quoi. Exactement. Aussi. Puis, tu sais, dans le fond, c'est un compte de transition. Là. L'argent est prise, elle est déposée dans un compte, puis par la suite, elle est reprise de ce compte-là pour la remettre aux autres personnes. Fait que, tu sais, c'est pas de l'argent qui reste là à faire des profits ou à faire des revenus. Là. C'est vraiment juste des comptes de transition pour tout ça. Mm-hmm. Puis, un coup qu'on a fait les différents ajustements, on a lu l'acte de vente, on a parlé des différents frais par rapport à la transaction. Qu'est-ce qui arrive? Les gens signent?
Bien, en fait, une fois que l'acte de vente est signé, il y a remise de clé. Donc, une fois que tout est expliqué, que tout convient, ça arrive des fois qu'on fait des modifications là, pendant la rencontre, ça, il n'y a pas de problème. Il y a la signature de l'acte de vente, il y a remise de clé. Puis après ça, bien, quand les gens quittent mon bureau tout heureux, s'en vont à leur nouvelle propriété, moi, j'enregistre l'acte de vente. Ce qui fait que l'acheteur, maintenant, est bel et bien propriétaire. Donc, c'est la publication de l'acte qui donne, je dirais pas le titre de propriétaire à l'acheteur, mais qui fait que c'est ce qu'on appelle opposable au tiers, que face à la ville, que face aux voisins, son nouveau propriétaire.
Qui vient officialiser la transaction.
Exactement. Okay. Exactement.
Puis, je me posais une question parce que j'avais déjà entendu cette histoire-là, puis on n'avait pas parlé avant la chronique. On vient souvent mentionner les gens, leur adresse, leur profession. Est-ce que c'est encore noté, les professions? Parce que, tu sais, il y a déjà eu, à l'époque, des gens qui marquaient policiers, puis, tu sais, par la suite, ben c'était des employés, pas des employés administratifs, là, mais, tu sais, il y a des gens qui couraient les actes de vente, puis rechercher les actes de vente, à savoir c'était quoi les professions des gens.
Ah, OK.
Pour savoir qu'est-ce qu'il y en était. Fait que, tu sais, est-ce que ça, c'est encore...
L'enfant, pour savoir que la personne qui habite là, il fait quoi?
Oui, exact. Okay. Puis, tu sais, dans le crime organisé, les gens qui étaient policiers aimaient ça, savoir c'était qui. Fait que, tu sais, par la suite, ben, ils ont changé les termes, là, justement, là, pour ces employés-là. Mais est-ce que on le voit encore, ça, les professions directement sur les actes de vente? Est-ce qu'on en parle de c'est
ben,
quoi
moi,
les...
Moi, je ne l'aimais pas. Donc...
C'est la discrétion du notaire, ça?
Ben, c'était un usage, en fait. C'était un identifiant qui était utilisé au même titre que l'adresse. Parce que, tu sais, nos acheteurs-vendeurs, on met le nom résident domicilier à telle adresse. Avant, dans les contrats aussi, il y en a qui mettaient les dates de naissance. Donc, c'était vraiment un usage parce que nous, un de nos rôles principaux, c'est de vérifier l'identité des gens. Donc, le travail, c'est une façon d'identifier. Mais moi, c'est plus quelque chose que j'utilise du tout. Même peut-être que je ne mets plus les dates de naissance.
C'est trop changeant aussi en même temps. Aujourd'hui, c'est pas la majorité des gens qui emploient, qui occupent le même travail ou la même profession.
On n'est pas défini par notre travail. Là, si on vérifie les pièces d'identité, puis...
C'est ça, ce qui nous définit beaucoup plus.
Je vois pas vraiment c'est quoi l'intérêt d'indiquer Jeff Morin, courtier immobilier. Ça apporte rien de plus. C'était vraiment un vieil usage là, qui n'est plus vraiment utilisé.
Yes. On va prendre une petite pause. Hein? C'est le bon moment. On dirait qu'ils m'ont regardé les deux en même temps. Donc, une courte pause et après, on va aller vers la conclusion de l'émission. Donc, restez là, chers auditeurs. How you
like that? CGMD, l'alternative radio. Talk, rock.
Pensez à Ninette. Ce sont les experts en ménage résidentiel dans la région de Lévis. En plus d'être le service voyage de surveillance d'animaux et de domicile ou les deux, aninette.ca. Parce qu'un soin pour votre foyer, c'est aussi un soin pour vous. Faites-vous faire une soumission, c'est gratuit. Quand vous aurez conclu que c'est fait pour vous, votre facture sera faite à l'heure, vous bénéficierez de leurs services garantis et de leurs assurances qui vous protègent de tout dommage. Et c'est écolo aussi. Ils soignent votre résidence et vos animaux avec des produits éco-sûrs. That's it. aninette.ca. 581-984-3680.
Je vous le dis, c'est pas un secret pour personne. Au Rina Saint-Romuald, du 950 rue de la Concorde, pour tout achat de 25$ ou plus, vous recevez un certificat cadeau de 10$ seulement en mentionnant CGMD. Hey, 10$ parce que t'as dit 4 lettres. Fais cher la lettre, là. Mais c'est seulement au Rina Saint-Romuald, 950 rue de la Concorde. Profitez-en, là.
À la recherche d'une salle dans la région de Lévis, pensez au complexe Deux Glaces Onco. Que ce soit pour une réunion d'affaires, un événement corporatif, un party privé, un banquet ou autre, le complexe peut vous recevoir dans l'une de ces 5 salles, dont la salle des jardins pouvant accueillir jusqu'à 300 personnes. Vous trouverez plusieurs avantages au complexe, services de restauration et traiteurs de qualité, services de bar, facilité d'accès, stationnement gratuit et le tout à des prix compétitifs. Jusqu'au 1er juin, mentionnez le code promo CJMD pour obtenir 15% de rabais sur les salles. Un complexe moderne, une équipe dynamique, une cuisine distinguée, un service clé en main. Appelez sans tarder au 418-839-9982
www.complexedeglace.com.
C'est un café canin, une boutique et un centre éducatif. Partez du bon pied avec votre chien chez Au Poil qui vous offre leur cours de maternelle, base 1 et 2, en utilisant des méthodes d'éducation éthiques et respectueuses. Venez prendre un bon café ou une collation tout en profitant de notre service de toilettage. Au Poil vous offre également en boutique la nourriture pour chiens de toute qualité, Horizon. On n'arrête pas là. Profitez également de notre service de gardiennage à domicile et de promenade. Venez nous voir au 977 route de l'église à Sainte-Foy ou consultez notre site au www.aupoil.ca.
Tutti Frutti Sainte-Foy, c'est le resto déjeuner-dîner à Québec qui convie petits et grands en toute simplicité. Tutti Frutti vous garantit fraîcheur et qualité, en plus de vous offrir un menu à bas prix et un service hors pair. Pour une pause repas rafraîchissante, une seule adresse, place 4 Bourgeois, 999 avenue de Bourgogne,
ouvert 7 jours sur 7,
jusqu'à 15h. Tutti Frutti Sainte-Foy, 418-653-6383.
Tutti Frutti, 5 fois.
Bonjour à vous tous, ici le capitaine Jack Sparrow. Je vous invite à la fête de la famille de Lévis les 9 et 10 juin au centre communautaire Le Carrefour, dans le secteur Saint-Rédempteur. Il y aura sur place des jeux gonflables, maquillage chromatique, yoga et zumba familial, un labyrinthe hanté, des canons mousse, des jeux de kermesse. Les mascottes de la Pat-Patrouille seront là également. Pat-Patrouille.
Plusieurs exposants seront sur place, ainsi que de nombreux spectacles sur scène, dont Dan Cowboy, Naomi Turcotte, L'Affaire Ketchup,
Ketchup et moi-même, Jack Sparrow.
Jack Sparrow.
Il y aura aussi de la restauration à faible coût et des food trucks. Un cinéma en plein air sera sur place également. Les informations complètes se retrouvent sur le site internet fêtefamillelévis.com. La fête de la famille les 9 et 10 juin, présentée par la ville de Lévis.
fêtefamillelévis.com.
Venez me rencontrer, Moussaillon, je vous attends en grand nombre.
Qu'est-ce qu'on fait pour que notre entreprise se démarque maintenant?
Il nous faut de la nouveauté. Logo, pub, visibilité, promo.
Ça prend du grand format pour ça.
Ça nous prendrait quelqu'un qui rallie tout au même endroit.
Attends, écoute.
Et oui, Image Express depuis plus de 15 ans. C'est le spécialiste de l'impression grand format. Lettrage, wrapping, affichage, autocollant, cartes, enseignes et vitrines. En plus de leurs nouveaux événementiels, kiosques, vêtements et plus encore. Experts dans la création et le développement de vos petits et grands projets publicitaires. 418-835-1789. Suivez-les sur Facebook, imageexpress.ca. 418-835-1789. Faites comme nous et impressionnez en grand.
T'as le goût de changement? Branche-toi à CJMD 96.9, la radio déformatée.
De retour dans la traverse pour cette dernière portion de l'émission et c'est vraiment pas plate, un affaire finalement.
Ça va vite, ça va vraiment très vite.
Oui, ça va vite.
Puis, tu sais, on a parlé comment qu'un processus de transaction va se faire, comment que le notaire vient mettre sur papier les différents termes et conditions puis les engagements de chacun. Mais dans un acte de vente, il y a beaucoup de particularités que le notaire doit faire des vérifications, que l'acheteur doit savoir, que le vendeur doit savoir aussi. Puis souvent, ça va être des nouvelles informations que les gens n'auront pas prises en considération, soit quand ils ont acheté leur propriété ou des informations, pas de dernière minute, là, mais que on peut qu'on doit savoir. Puis le notaire, c'est une de ses forces de faire ces vérifications-là. Puis il y a des notions de droits acquis. Puis tu sais, les notions de droits acquis, c'est on entend tout le temps le beau-frère dire « Ah, il n'y a pas de problème, ma remise est là, ça fait longtemps, c'est un droit acquis. »
Elle a toujours été là.
Ouais, c'est ça.
Et ça, là, ça a toujours été de même.
Ouais.
Ça, je suis allergique à ces mots-là.
C'est quoi la notion de droits acquis?
Oui, en fait, les droits acquis, c'est quand c'est une situation qui va se présenter quand on a un bâtiment ou une dépendance, donc un bâtiment secondaire qui n'est pas conforme à la réglementation municipale actuelle. Fait que, par exemple, notre maison est trop proche de la rue. Ça, c'est quelque chose qu'on peut voir quand même assez souvent. Par contre, l'arpentage géomètre, dans le certificat d'égalisation, quand il va faire ses recherches à la ville, dans le fond, s'il est capable de démontrer que le bâtiment était construit avant l'entrée en vigueur de la réglementation, à ce moment-là, on peut avoir ce qu'on appelle des droits acquis. C'est-à-dire que, étant donné que notre bâtiment était là avant la réglementation puis qu'il était conforme au moment de sa construction, ben même s'il ne l'est pas actuellement, on a des droits acquis, donc on peut considérer, entre guillemets, qu'on est conforme. Toutefois, ce qui est important de savoir, puis qu'on dit à nos clients, c'est qu'advenant une destruction de l'immeuble, totale ou partielle, fait qu'admettons que la maison passe au feu, à ce moment-là, par contre, la ville pourrait nous dire de reconstruire en conformité avec la réglementation actuelle.
Oh, OK. Donc, un petit changement. On perd le droit.
C'est ça.
Un peu.
C'est ça.
OK.
Puis on dit pourrait parce que c'est pas un automatisme. C'est sûr que la ville... Si jamais le fait de reconstruire en conformité avec la réglementation actuelle ferait en sorte qu'on serait dérogatoire sur d'autres points, ben tu sais, ils vont le prendre en considération.
Là, oui.
Si on a un petit terrain et qu'on ne peut pas plus replacer la maison, ils vont le prendre en considération. Mais c'est important de le savoir au niveau des droits acquis. Puis également, au niveau de ce qui est bâtiment secondaire, par exemple, les cabanons, les fameux cabanons, ben ça, les arpenteurs, ils ne se prononcent plus vraiment. Parce que dans le fond, les arpenteurs, ils vont dire, ben il n'y a rien qui nous prouve que le cabanon, ben c'est le même que celui qui a été construit en 1985. Fait que ça, la notion de droits acquis au niveau des bâtiments secondaires est discutable.
Puis est-ce qu'il peut y avoir des notions de droits acquis sur des clôtures, sur de l'occupation, des choses comme ça?
Au niveau des clôtures, pas vraiment, parce qu'à la limite, ça serait une structure qui pourrait se déplacer. Mais par contre, quand tu me parles, Jeff, d'occupation, ça aussi, c'est un autre élément qu'on va regarder dans le certificat de localisation. Si, admettons, on a le voisin qui a sa clôture, mais que sa clôture est 5 cm chez nous, Donc, il a pas bien checké ses affaires, il a fait mettre sa clôture, puis finalement, elle est chez nous. On a l'obligation d'expliquer maintenant à nos acheteurs que si ça fait 10 ans que notre voisin y occupe notre propriété de manière continue, paisible, non équivoque, donc on s'en est jamais rendu compte, on lui a jamais dit que c'était chez nous, puis lui, ben, il entretient cette partie de terrain-là, il devient propriétaire de la partie de terrain qui va occuper cet endroit. Donc ça, c'est une nouveauté, en fait, depuis 2016. Ça existait avant, cette notion-là. Par contre, ça prenait un recours judiciaire pour le faire reconnaître. Maintenant, d'emblée, les juges de la Cour suprême, dans un arrêt là, qui a été rendu à l'automne 2016, sont venus dire « c'est automatique, le recours judiciaire fait juste reconnaître le droit de propriété, ça ne le crée pas ». Donc, c'est super important, dans un certificat de légalisation, premièrement, qu'il soit à jour, pour être sûr qu'il n'y a personne qui est chez nous. Mais aussi, si c'est le cas, ben il faut agir pour éviter de perdre une partie de notre terrain.
Parce que là, c'est ça, j'avais une question qui s'en venait là-dessus. Tu peux perdre ce bout-là de terrain.
Oui, tout à fait. Il devient le voisin.
Donc, quand il y a un nouveau certificat, il faut qu'il... Tu peux gagner un pied de terrain, mettons.
Oui, par une occupation sans droit, oui.
Ah oui.
C'est simple écoulement du temps.
Ça, c'est vraiment le droit de prescription, c'est ça?
Exactement.
Wow.
Fait que c'est quand même important. Puis tu sais, quand Alexandra était venue aussi au niveau du certificat de localisation, ben tu sais, on avait parlé un peu de ces notions-là, mais justement, moi, c'est avec Jessie que j'ai appris justement qu'il y a eu un jugement qui a été donné, puis qui disait que c'était plus nécessairement d'avoir un jugement en droit de prescription, mais l'occupation va faire en sorte que tu peux dire, ben écoute, ça fait 10 ans, 12 ans que j'utilise ma parcelle de terrain, que c'est moi qui l'entretiens. La clôture, oui, elle est un pied chez vous, mais... c'est moi qui l'entretiens depuis 10 ans. C'est ma partie de terrain maintenant.
Ça devient à moi sans qu'il y ait une transaction financière par rapport
exactement.
À ça.
Wow.
Fait que,
exactement.
Une particularité, ça en est une importante là, à
ben
vérifier.
Oui.
Là.
Mm-hmm. Quand wow. même.
Puis par la suite, on parle souvent de garantie légale, puis on parle de garantie légale de qualité. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a une distinction à faire entre les deux?
Bien, en fait, au niveau des garanties, il y en a plusieurs types. Donc, si on vend avec la garantie légale, donc on vend en fait, on garantit qu'on est bel et bien propriétaire, qu'à notre connaissance, il n'y a pas de litige concernant la propriété. Donc, on garantit que l'usage est conforme, que le sol, par exemple, ne serait pas contaminé. Donc, que notre acheteur, il n'y aura pas de problème. Quand on vend sans garantie légale de qualité, dans le fond, si on fait le contraire, ça veut dire qu'on ne garantit pas la qualité de construction de l'immeuble, on ne garantit pas la constitution de l'immeuble, mais on garantit les titres de propriété. Donc, la seule façon qu'il n'y ait aucune garantie accordée par un vendeur sur une transaction, c'est vraiment de dire sans aucune garantie au risque et péril de l'acheteur. Donc, à ce moment-là, il n'y a aucune garantie qui s'applique.
On ne vient même pas mentionner le légal, là.
Bien, ça peut être dit sans aucune garantie légale. Dans le fond, c'est le terme important, c'est pas légal, c'est ce qu'on va trouver après. Donc, dans le fond, sans garantie légale de qualité, c'est une chose. Puis sans garantie légale, c'est d'autres choses.
Exact. Puis, il y a aussi des bandes de protection riveraine. Il y a aussi des zonages agricoles. Est-ce que ça cause des problèmes, ça, des fois, dans des actes de vente?
Bien, en fait, le zonage agricole, c'est une des premières choses qu'on va vérifier parce que si on a une propriété qui se trouve en zone agricole, il faut vérifier, bon, est-ce qu'on a la notion d'îlot déstructuré? Donc, ça veut dire que la Commission de la protection du territoire agricole est venue dézoner certaines propriétés là, en zonage agricole, ce qui permet finalement l'usage résidentiel. Puis si on n'est pas dans ça, ben, est-ce que notre propriété a des droits acquis en matière de zonage agricole? Donc, est-ce qu'il y avait déjà un usage résidentiel avant l'entrée en vigueur de la loi, donc qui est souvent, grosso modo, en 78, parce que si finalement notre propriété elle a été construite en 85, mais qu'on était en zone agricole depuis 78, bien là, il y a des vérifications à faire parce que ça se peut finalement qu'on n'avait pas le droit de se construire en 85. C'est arrivé dans Portneuf, il y a plusieurs années, qu'il y a des notaires qui ont fait des transactions puis qui n'ont pas vraiment vérifié le zonage agricole. Puis il y a des gens qui se sont fait dire par la commission qu'il fallait qu'ils démolissent leur maison.
Ouch.
Parce qu'ils s'étaient construits sans droit en zonage agricole. Donc, le zonage agricole, c'est vraiment important. C'est géré par le gouvernement. On ne fait pas ce qu'on veut dans une zone agricole.
Non, parce qu'elle peut servir à autre chose.
Bien, c'est qu'ils veulent protéger les territoires agricoles qui restent. On s'entend qu'il n'y en reste plus tant que ça. Donc, ils veulent les protéger. Donc, ça prend des autorisations spécifiques à cet effet-là. Puis au niveau des bandes de protection, Jeff, bien ça, en fait, c'est quand on va se trouver sur le bord d'un cours d'eau. Sauf que ce qu'il faut savoir, c'est qu'aux yeux du gouvernement, un cours d'eau, bien, ça peut aussi être un ruisseau. Là. T'sais, ça peut être un petit écoulement d'eau. La notion, c'est un écoulement d'eau constant. Même si c'est minime, bien, à ce moment-là, l'arpenteur géomètre, dans son certificat de localisation, doit appliquer une bande de protection. Puis dans une bande de protection, qui peut être 5 mètres de large, 10 mètres de large, jusqu'à 20 mètres de large, on n'est pas supposé avoir de construction.
Ni même des constructions accessoires, là.
C'est ça. tu sais, pour la protection de la faune, de la flore, on n'est pas supposé avoir de construction.
Pas de piscine, pas de cabanon, absolument rien dans cette zone-là.
Oh.
Fait que, tu sais, imagine-toi que tu as un petit ruisseau en arrière de chez vous, puis que la bande de protection riveraine est à 10 mètres, qui donne à peu près 30 pieds.
Tu perds un bout de terrain, là.
Sur la largeur de ton terrain, là.
Ce qui est compliqué avec les bandes de protection riveraine, c'est que quand on lit le règlement, il n'existe pas vraiment la notion de droits acquis. On présume que si la maison était là avant, le cabanon était là avant, que oui, ça va être toléré, mais il ne faut pas qu'il y ait de nouvelles constructions. Puis ce qui est encore plus compliqué, c'est que des fois, la bande de protection va être gérée par la ville, puis d'autres fois, c'est le gouvernement du Québec. Donc, c'est du cas par cas. Il faut voir dans cette municipalité-là qui a pris en charge les bandes de protection.
Wow!
Tabarouette!
Fait que, tu sais, est-ce que tu as eu un peu de bagage aujourd'hui sur le droit notarial, sur qu'est-ce qui se passe?
Oui, je veux vraiment avoir appris plusieurs choses et comment qu'on peut en apprendre plus, est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux sociaux, sur...
au niveau de l'entreprise, au niveau de l'entreprise, on a une page Facebook, donc Brochure Saint-Léa Jeunesse Notaire, on a une page Facebook, on a un site internet qui est notaire@bal.com. Puis pour les gens qui veulent me rejoindre, j'aime toujours ça discuter avec les gens, vous pouvez me joindre au 418-834-5400. Donc, 418-834-5400 ou par courriel, je suis joignable pratiquement 24 heures sur 24. Donc, le J Labrec, pas de point, à commercial notarius.net.
Notarius, vous êtes tous avec notarius.net,
oui,
les notaires.
Ben oui.
C'est ça qui est bien, là, c'est que malgré chacun les cabinets, c'est qu'il y a le réseau courriel qui communique.
Ben, il y a certains bureaux de notaires qui ont leur propre courriel, mais en général, on utilise pas mal tout notarius.net.
Ben oui, c'est une façon de...
On envoie très peu avec un vidéotron.ca ou un hotmail.com.
Ouais, ça devrait toujours allumer des lumières. Pour n'importe quel professionnel qui a une adresse personnelle, ding, 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 dans toutes les sphères. Mais merci d'avoir été là, Jesse et Jean-François. C'était très enrichissant, encore une fois. Je vais sûrement avoir d'autres questions.
Puis, pour ce qui est de la semaine prochaine, on va rencontrer Samuel Grenier.
Oui.
Lui va nous parler de la conformité fiscale dans la gestion immobilière. Fait que, tu sais, on a des gens qui sont très pointus dans le milieu de l'immobilier, puis ils viennent nous donner là, du contenu super intéressant. Fait que, tu sais, on est propriétaire d'immeubles à revenus, puis on fait faire du gazon, on est deux propriétaires, la facture est-tu juste à un propriétaire? Mmh. Est-ce que notre facture est conforme, pas conforme aux yeux du gouvernement? Fait qu'il va venir nous parler de tout ça, fait que ça va être vraiment intéressant.
Ça va être plus pointu un peu, là.
Ouais, puis je pense qu'on va en apprendre vraiment beaucoup sur comment gérer nos dossiers, puis être conforme au niveau fiscal.
Bon, mais super, ça va être encore une fois très intéressant. Donc, à venir la semaine prochaine. Et...
Merci beaucoup, Jesse, pour avoir accepté l'invitation. C'est vraiment intéressant.
Et je serai de retour pour ma part demain matin. Là, je devrais l'avoir, mon nouveau co-animateur. La semaine passée, ça a été un petit peu différent. Mais là, demain, on vous parle de divertissement. Donc, vendredi, avant la fin de semaine, on aime ça savoir qu'est-ce qui se passe. C'est plus relax.
Yes. Bonne semaine, tout le monde.
Bonne semaine. Bye-bye. Restez là. Dis-moi tes peurs. Suis juste après.
Oubliez les bouches pincées et les pseudo-connaisseurs. Le show du Grand Nick, les technopreneurs, politique correcte, de l'information à l'état pur. CJMD 96-9.
La niche à Luna, la niche à Luna, c'est Henri de Lévis pour tous vos chiens chats.
Pour notre entreprise familiale ouverte 7 sur 7, rien n'est plus important que le bien-être et la santé de votre animal.
Des conseils éducatifs personnalisés,
de nombreux accessoires, de la nourriture santé de qualité supérieure
et des experts passionnés.
N'hésitez pas à prendre rendez-vous pour les jeudis coupe gris. Profitez également du service de livraison à domicile.
La niche à Luna, 88-700-0600. Pour plus d'informations, www.lanichealuna.com.
C'est Henri de Lévis pour tous vos chiens chats.
Hey, le Rina Saint-Romuald fête ses 10 ans en grand. Obtenez un certificat cadeau de 10$ pour tout achat de 25 et plus, juste en mentionnant CJMD. Venez profiter du meilleur menu déjeuner, des généreuses tables d'hôtes au dîner comme au souper. Venez prendre du temps de qualité autour d'une bonne fondue à deux. C'est juste 55$ incluant la bouteille de vin. Et repartez avec votre certificat cadeau de 10$ en mentionnant CJMD. C'est simple de même. Ça se passe au Rina Saint-Romuald uniquement, 950 de la Concorde. C'est la route qui va vers le Walmart près des promenades du Sud.
Pourquoi acheter un véhicule neuf pour qu'il y ait 25% de valeur qui s'évapore sans raison dès qu'on est sorti du garage? Soyez plus futé que ça. Contactez Automobile Prestige DG. Ils ont le véhicule pour vous et sinon, ils vont le trouver. Service courtage, achat, vente, échange. Automobile Prestige DG. C'est eux que vous appelez pour trouver votre prochaine voiture. C'est tout.
88 406 34 34.
En plus, ils sont spécialisés en financement automobile. Première, deuxième et troisième chance au crédit sont disponibles. Laissez-vous prendre
prendre en charge. Automobile Prestige DG.
Maintenant, une toute nouvelle adresse. 6006 Boulevard Sainte-Anne à Lange-Gardien.
418-406-3434.
Arrêtez de chercher et trouvez.
À deux pas du centre-ville de Québec.
C'est le temps de déménager. C'est donc aussi le temps de planifier. Et pour ça, ça peut être une bonne idée de prévoir d'autres ressources que le beau-frère. Prévoyez votre déménagement avec la ressourcerie de Lévis, voyons. Vous avez des objets, des meubles ou des vêtements qui méritent une nouvelle vie, donnez-les à la ressourcerie. Vous ne pouvez pas vous tromper, ils ont plus de 35 employés qui trient et remettent en marché les articles que vous leur confiez. Mais si vous cherchez des objets, des meubles ou des vêtements à un prix imbattable, ou encore de la peinture pour votre nouvel appart ou des matelas flambant neufs, vraiment pas cher.